9h27, vous êtes à l'écoute de Marceau le matin. Je le répète, Marceau qui sera en retour à compter du 12 janvier. En attendant, c'est moi, Pascal CV, Max Larouche aux commandes du matin. On s'amuse beaucoup, on a bien du plaisir et on aime parler de sujets qui vous passionnent. Et Pascal, je me trompe pas, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres.
Sur toutes les lèvres, parce que ça inquiète pour certains. D'autres veulent absolument faire partie de ce renouveau technologique-là, donc sont hyper intéressés. Et encore là, ça pourrait être aussi la clé, la porte de sortie pour bien des entrepreneurs.
Exactement. On a Hugues Foltz, le vice-président exécutif de Vauban au bout du fil. Vauban, c'est une entreprise qui développe présentement des logiciels qui permettent aux entreprises qui ont des chaînes de production de mieux planifier leur production, ainsi d'augmenter leur productivité et d'être plus attrayants sur le marché. Monsieur Foltz, comment allez-vous?
Très bien, merci. Bonjour.
Merci beaucoup. Monsieur Foltz, j'ai déjà travaillé dans une usine de comptoirs et de portes d'armoires et j'étais responsable du service à la clientèle. Puis je travaillais avec un directeur d'usine au niveau des comptoirs de quartz et de granit à monter un système de production parce qu'on avait commencé dans un calendrier Outlook à mettre nos différentes plages de production. Tel produit, ça prend 3 heures, on va le mettre là, l'autre là, mais on y arrivait jamais. On arrivait toujours avec des retards. Donc j'imagine que si je vous avais appelé, vous auriez réglé ma situation?
Bien, clairement, on aurait pu aider. C'est en fait changer probablement bout pour bout la façon de faire, en fait. Mais c'est très courant. Les entreprises, vous seriez surpris du nombre d'entreprises qui, encore aujourd'hui, gèrent des dizaines, voire parfois des centaines de millions de chiffres d'affaires avec des Excel. Donc, on est face à des entreprises qui ont tout simplement un énorme pas à faire et énormément d'innovation pour se mettre à jour aujourd'hui.
Concrètement, comment vous, justement, modifiez ces façons de faire-là pour aider les organisations?
Ce qu'on fait chez Vauban, ce n'est pas juste de la production. Ce que vous mentionnez au début, c'est un type de projet bien spécifique, mais on travaille dans à peu près toutes les industries. On est beaucoup dans l'aéroportuaire, dans les ports, dans la logistique, dans le transport et bien sûr dans les manufacturiers. Donc, l'exemple qui est donné dans un article qui est paru cette semaine, c'est une optimisation de production pour Cuisine Simard qui fait des cuisines et des armoires de salle de bain sur mesure. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle chez Vauban pour automatiser ou optimiser des façons de faire, grosso modo. Et bien sûr, tout ça enrobé, généralement, sinon tout le temps, d'un volet logiciel pour s'interfacer avec les logiciels et les machines existantes dans l'entreprise.
C'est particulier d'être rendu là maintenant, mais en même temps, c'est une belle grande avancée. Pour certains, c'est particulier parce qu'ils ont peur que ça prenne des emplois. Pour d'autres, c'est particulier parce qu'ils ne savent pas comment réagir, mais assurément, jouer, travailler avec l'intelligence artificielle. Pour eux, sans même avoir essayé, ça les dépasse. Est-ce qu'on est confronté à certaines portes fermées dans cette innovation-là?
Absolument. En fait, le Canada fait figure de cancre à l'échelle planétaire en termes d'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, c'est beaucoup plus que des portes fermées. On a, nous, chez Vauban, maintenant, depuis 8 ans, une équipe qui aujourd'hui se compose de plus de 200 personnes qui intègrent des solutions d'IA dans toutes sortes d'entreprises, encore une fois. Mais il y a 8 ans, on était reçus avec des points d'interrogation dans le visage par les entrepreneurs et les gestionnaires des entreprises, se disant simplement pourquoi on ferait ça et quelle est l'urgence puis quel est l'intérêt même. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé, bien sûr. L'arrivée de l'IA générative comme ChatGPT et les autres a démocratisé ou du moins fait comprendre la maturité très, très grande déjà des algorithmes et de l'IA en général. Au-delà de ça, maintenant, les entreprises comprennent que, en fait, de plus en plus, les entreprises comprennent que l'intelligence artificielle est un moteur de productivité et un moteur aussi même de pérennité de leurs entreprises. Donc, s'ils n'en intègrent pas, ils vont en payer le prix un jour ou l'autre, puis malheureusement, probablement plus tôt que tard.
Qu'est-ce qui fait la différence, justement, entre l'intelligence artificielle et le fichier Excel utilisé par des compagnies qui ont encore des centaines de millions de chiffres d'affaires?
Et mon Dieu, des différences, il y en a des tonnes. La première, et ce qu'il faut comprendre, en fait, si je peux résumer ça ainsi, du moins, là, c'est que l'intelligence artificielle se nourrit de complexité. Et là où on va intégrer de l'IA, c'est dans des processus, comme sur une chaîne d'approvisionnement ou une chaîne de production manufacturière, pour garder l'exemple du début. On va avoir des données machines, on va avoir des humains qui vont aller à une cadence X, fonction de qui ils sont. On va avoir des couleurs de panneaux, d'armoires de cuisine différentes, des tailles différentes, donc des tailles de l'eau. Et tout ça, c'est des variables qu'il faut gérer et qui doivent être mis dans le bon ordre pour optimiser et avoir une production la plus optimale possible. L'humain a une capacité très limitée à gérer un certain nombre de variables. En fait, plusieurs études ont démontré dans des grandes universités partout dans le monde que on est à peu près bon, normalement, on est bon pour gérer 5 variables en même temps. C'est-à-dire que si tout le monde, par exemple, de votre côté à l'animation et moi, on se trouve à faire l'horaire de 5 employés pour la semaine prochaine, mm-hmm. on devrait tous être relativement bons. Mais si on ajoute un 6e employé, automatiquement, on sera tout simplement pas bon ou pas capable de bien le faire. Donc, l'intelligence artificielle va gérer des... Je pense que chez Cuisine Simard, c'est au-delà de 40-50 variables qui fluctuent et qui changent en fonction de chacune des commandes. Alors, imaginez quand vous avez à faire la planification journalière, sinon au-delà de ça, parfois c'est horaire, donc c'est à l'heure, quels sont les lots, quels sont les modèles, les couleurs qui rentrent sur la chaîne de production. L'humain ne suit juste pas l'appareil. Donc, on enlève complètement les Excel tels qu'on les connaît, où on se trouve à faire malheureusement plus souvent de la planification au feeling, là, en fonction de l'expérience qu'on a. Et parfois, il y a des très bonnes décisions qui sont prises dans cette fameuse expérience au feeling-là. Mais sur le total des décisions prises sur une semaine, un mois, une année, c'est des tonnes d'argent qui sont laissées sur la table, en fait.
Mais je pense que c'est vrai que la méconnaissance est présente. C'est juste l'utilisation de ChatGPT pour plusieurs. Ils savent pas comment s'y prendre quand finalement c'est un genre de Google très efficace. Je fais juste le parallèle parce que l'intelligence artificielle aussi fait peur. Pour certains, c'est comme une prise de possession de nos moyens, une perte aussi de contrôle de l'être humain. Mais surtout au niveau emploi, ça pourrait revoir quand même beaucoup le secteur manufacturier puis encore dans la préparation de certaines choses. Au niveau des cuisines Simard, c'est plutôt une économie de temps, c'est pas des pertes d'emplois.
Mais ça impacte toujours les emplois. Les okay. planificateurs, que ce soit chez Cuisine Simard ou les métiers où on se trouve aujourd'hui, il faut faire attention. On va parler d'employés qui vont être augmentés grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ils vont aller plus vite. Donc, forcément, si vous aviez besoin de 3-4 planificateurs avant, mais aujourd'hui, vous allez probablement avoir besoin de moins de ces gens-là. Mais la vraie façon de voir les choses, il y a deux grandes variables qui sont pas prises en compte, qui sont souvent ou trop souvent pas prises en compte ou peu prises en compte par les entreprises. C'est que nos entreprises manufacturières, et là je vais aller au-delà de manufacturières, dans tout secteur confondu, les entreprises canadiennes souvent ont des carnets de commandes très pleins. On laisse de l'argent sur la table parce qu'on n'est pas capable de livrer les commandes parce qu'on est en plein emploi. Et bien sûr, avec la situation aujourd'hui des tarifs américains, c'est peut-être un peu moins vrai depuis un an, mais c'était très vrai il y a un an de ça. Donc, nos entreprises sont à pleine capacité plus souvent qu'autrement. On a également une problématique grave de pénurie de main-d'œuvre qui fait les journaux depuis des lunes maintenant, qui va s'accélérer avec les départs à la retraite de nos baby-boomers qui ont à peine commencé à partir pour vrai. Dans les 5 prochaines années, c'est vraiment là que les grandes vagues de départs vont se faire. Donc, il faut arrêter d'avoir peur à nos pertes d'emploi. Il faut avoir des employés plus performants qui utilisent les technos pour que nos entreprises soient plus productives et à la hauteur des attentes des marchés étrangers qui nous compétitionnent constamment, en fait.
Oui. Monsieur Voltz, qui est le vice-président exécutif de Vauban, Hugues Voltz, avec qui on parle d'intelligence artificielle, jusqu'à quel point le Canada est en retard en intelligence artificielle et est-ce qu'on va arriver à un moment critique, un certain, dans une période rapprochée qui va faire en sorte qu'il va y avoir des entreprises qui vont carrément fermer?
Bien, en fait, malheureusement, les fermetures ont déjà commencé. Il y a déjà des entreprises qui ont été, on peut dire, fermées ou vendues à rabais. C'est vendu à rabais qu'on a vu. Là, il y a des entreprises que vous avez peut-être vu passer dans les journaux. Il y a des entreprises qui vendent au Québec à des entreprises étrangères très souvent ou presque tout le temps, principalement parce qu'ils sont en retard technologiquement. Donc, ils ont compris que malheureusement, la côte à monter était tellement à pic et tellement longue que probablement qu'il était mieux de vendre avant qu'il soit trop tard. Donc ça a déjà débuté. Ça a été entre autres et en partie documenté par la BDC puis par d'autres organisations. Le bouton panique est déjà un peu appuyé dans les provinces et au Canada. Nous, on a fait partie de certaines tables de concertation où ça a été ouvertement nommé. Maintenant, quand on se compare à l'échelle de la planète, la seule étude qui nous a donné un comparable bien appuyé, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui nous a classé avant-dernier dans les 34 pays de l'OCDE en termes de productivité par habitant. Donc, on n'est définitivement pas les derniers, mais presque. Donc,
À ce point-là.
Et c'est pas la seule variable, mais une des variables parmi les plus importantes, c'est notre résistance à l'intégration des technologies. Et là, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, mais on n'a pas d'appétit à s'automatiser et aux technos en général. Et ça nous coûte aujourd'hui très cher dans ce qui a trait à la productivité de nos entreprises. C'est clair, dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc.
Est-ce que vous pensez que notre économie, au-delà des emplois, pourrait être beaucoup plus favorisée de cette manière-là si on venait plus proactif? Un, ça coûte cher, cette technologie-là. Donc, il y aurait sûrement une avance d'argent, de fonds à faire. Peut-être certaines pertes d'emplois, donc peut-être augmentation du chômage. Mais encore là, on est dans les spéculations, là, vraiment, parce que moi, j'ai pas de chiffres puis je suis pas économiste du tout. Mais au bout de la ligne, après quelques années, le fait que la productivité soit augmentée, comme vous le décriviez si bien, est-ce qu'on serait beaucoup plus gagnant malgré tout, malgré les pertes puis malgré les investissements?
Bien, en fait, c'est des investissements et non des pertes. Donc, terme, c'est ça. Les entreprises qui investissent en technologie aujourd'hui, et depuis des années, on a des clients qui investissent un pourcentage planifié de leur chiffre d'affaires année après année en intelligence artificielle ou en optimisation grâce aux technologies. Et le retour sur investissement, il est toujours de 1 à 3 ans, maximum 3 ans. Donc, quand ton projet s'est payé en 12 mois, et à partir de ce moment-là, si ton projet a coûté 1 million puis qu'il se paye en 12 mois, ça veut dire qu'année après année, tu vas faire de 1 million minimum à plus si ton chiffre d'affaires a augmenté. C'est du profit supplémentaire qui déboule. Et c'est surtout de l'investissement qui est... En fait, cet argent-là peut être réinvesti sans sortir de l'argent du profit d'origine de l'entreprise. Donc, normalement, les technologies s'autofinancent au fil du temps. Donc, c'est très mal compris. Sinon, en fait, le vrai réflexe, c'est ce que nous, on dit tout le temps, c'est que si c'est pas payant, faites-le pas. C'est une décision d'affaires tellement simple et tellement, malheureusement, mal comprise, mais on devrait toujours voir un retour sur investissement dans l'implantation et le déploiement de toute technologie. C'est clair.
Hugues Foltz est le vice-président exécutif de Vauban. Il est un spécialiste en implantation d'intelligence artificielle dans les entreprises. Monsieur Foltz, merci infiniment pour votre expertise ce matin. Ça a été très éclairant comme conversation.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, au revoir. Alors, c'était très, très, très intéressant comme conversation, Pascal. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on est les derniers de classe au Canada.
Oui, puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Là.
Ben oui.
Il y a notre retard. Il y a notre... il dit on est cancre. Notre, pas indifférence, notre manque de connaissances.
Oui.
Notre malaise
c'est
aussi.
C'est bien dit, notre manque de connaissances. Oui, malaise, notre crainte.
Puis souvent, quand on ne comprend pas quelque chose, le comportement humain, c'est de reculer. Hein. C'est de faire comme si ça n'existait pas. Ah, je comprends pas, fait que ça vaut pas la peine. Ah, je comprends pas, fait que je veux pas avoir l'air stupide, je continuerai pas dans cette voie-là. Puis au contraire, ce qu'il nous disait, lui, c'est foncez.
Oui.
Mettez-vous au courant de, apprenez à travailler avec, investissez dans... Puis vous allez voir que vous allez beaucoup plus tenir la route avec une pérennité pour votre entreprise que si vous reculez en ce moment, vous embarquez pas dans le bateau.
Clairement, parce que de la vente d'entreprise présentement à rabais, ça se fait au Canada, ça se fait au Québec. Et c'est de la vente à rabais souvent à des gens étrangers, donc à des compagnies étrangères du Canada, du Québec, qui n'installeront pas leur siège social ici. Donc, c'est des pertes d'emplois, des pertes d'impôts, des pertes de revenus ici même au pays, dans notre province du Québec. Donc, il va être grand temps de peser sur l'accélérateur. Mais malheureusement, avec la guerre tarifaire, bien, il y a plusieurs entreprises qui reportent à demain les investissements. Alors, présentement, là, l'état de l'économie au Canada n'incite pas non plus. Derrière la crainte de l'IA, il y a aussi cette crainte-là, finalement, de ne pas être capable de remplir mon carnet de commandes puis que mon investissement devienne une dépense plutôt, justement, qu'un investissement. Pascal, avant la pause, je t'en parlais. Excellent texte dans la presse où on parle de futurs psychiatres dans la rue pour susciter des vocations et pour, justement, intervenir avec les personnes itinérantes. Donc, les personnes qui sont sans-abri. Et honnêtement, moi, ça me fait triper ce type d'intervention-là. Puis je t'explique pourquoi. Parce que souvent, les gens qui sont
désaffiliés
du réseau, comme une personne itinérante, vont avoir une crainte d'aller à l'hôpital, vont avoir une crainte du policier, vont avoir une crainte même du citoyen.
C'est ce qu'on rapporte.
Exactement. Et ça prend toujours un premier contact positif. Puis c'est du travail à long terme. T'sais, je te parlais ce matin, au début d'émission, que je suis allé à l'Aube-Rivière, j'ai vu justement le programme PRISM et j'ai vu à quel point on peut prendre une personne itinérante et un an plus tard, elle est rendue avec un travail et un logement. Mais ça s'est fait à coup de petites interventions au début au centre de jour avec les intervenants, puis avec une infirmière. Puis là, à un moment donné, on a dit « Ah tiens, regardons-nous, on te ferait rencontrer une autre personne, une autre personne, une autre personne. » Parce qu'il faut créer ce lien de confiance-là. Et je suis convaincu que ce type d'intervention-là, Pascal, c'est le type d'intervention du futur. Parce qu'on ne peut pas demander à un policier, à une policière d'être spécialiste en santé mentale. Mais si on les fait accompagner par des spécialistes, je suis convaincu qu'on va aider davantage le monde.
Je crois aussi. Puis pour eux, en tout cas, pour avoir parlé à certains qui se retrouvaient dans les rues de Québec dans un projet pilote il y a quelques années, il y avait aussi une grande fierté d'aller directement jaser avec leurs patients, d'être en relation efficace, coordonnée, puis même d'aiguiller, d'aider certaines équipes à Québec. C'était vraiment un travail de collaboration. Pour eux, ils sont souvent dans ligne à côté ou comme tu dis, une fois qu'on a passé la barrière de l'hôpital, ils sont accessibles ou une fois... Puis ils sont aussi très occupés. Hein. C'est des gens qui ont du travail, du pain sur la planche, pas à peu près. Fait que le fait de couper leur journée parfois, leur semaine, puis d'être directement dans la clientèle, dans la rue avec les patients... Ça a un impact extrêmement bénéfique. Un, pour les gens qui entourent.
Oui.
Ils se sentent plus apaisés, ces gens-là, pris en charge, en contact avec des gens qui peuvent les aider. Mais aussi pour les psychiatres, ben c'est le pourquoi ils travaillent au quotidien.
Exactement. On en parle positivement dans la presse. Puis c'est un projet pilote qui avait entre le SPVM et le CHUM à Montréal. Et ce qui est fait, dans le fond, c'est que justement, on envoie des psychiatres avec les policiers. Les policiers apprennent de ces interventions-là qui se font en santé mentale. Mais comme tu l'as si bien dit, les psychiatres, les futurs psychiatres qui sont maintenant devenus psychiatres, qui ont été interrogés, pour eux aussi, c'est un retour aux sources. Et ça leur permet de tester les types d'interventions, mais surtout d'enlever plusieurs mythes qu'ils avaient par rapport aux personnes qui vivent dans la rue. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un texte qui est dans la presse, qui se retrouve, c'est un dossier, justement, de Katia Gagnon. C'est très intéressant parce qu'il y a le double bénéfice. Et justement, on mentionne là, que plus on expose les psychiatres à des situations extrêmes comme ça dans la rue, tôt dans leur développement, plus leurs interventions vont être efficaces.
Ah, c'est bon ça, c'est vraiment bon, ça va. Moi, je trouve ça le fun de voir. Là, c'est plutôt du côté de Montréal hein, qu'on va s'affairer à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'informations au niveau de Québec?
Ouais,
c'est parce que le projet pilote a été efficace, on a commencé avec ça. On va essayer de se renseigner là-dessus, parce que Montréal, c'est super. On est content, puis en plus, si on travaille parallèlement et donc quelquefois conjointement, on peut beaucoup avancer entre municipalités, entre villes. Mais à Québec, ça nous prend ça aussi. Sont-tu déjà là? Je sais qu'il y a des super bonnes équipes dans les rues, mais...
Oui, exactement. On s'informera pour ce qui est de Québec. Présentement, à Montréal, c'est quand même énorme. Le chiffre, c'est 4690 personnes qui vivent de l'itinérance à Montréal. Donc, c'est vraiment une augmentation fulgurante. Ça, c'est les chiffres d'octobre 2022. On sait, il y a un dernier recensement qui a été fait. Normalement, les chiffres devraient sortir dans le premier trimestre de 2025. Et puis, en plus, que ce projet pilote-là permet justement des contacts avec les personnes itinérantes, les amener par la vers les bonnes ressources et les sortir de la rue. Bien, c'est Claire Gamache, la présidente de l'Association des médecins psychiatres, qui mentionne que pour les médecins résidents, de voir la réalité dans la rue, dans des piqueries ou dans des appartements très modestes ou problématiques, ça donne une perspective plus humaine, ça humanise par la suite le contact humain, puis ça permet à ceux par la suite qui vont travailler dans les différentes urgences psychiatriques d'intervenir de façon différente. Alors, c'est super intéressant si ça vous intéresse d'aller lire le texte. Moi, je crois à ça maintenant qu'il va falloir changer nos façons de faire, va falloir changer nos méthodes, va surtout falloir faire des connaissances transversales.
Ben oui, moi je pense que c'est bon pour ceux qui sont dans la rue, mais c'est bon aussi pour nous à l'extérieur. Ben, pas nous nécessairement, toi et moi, mais
non.
Pour les statistiques qui peuvent en ressortir. C'est une étude directe.
Exactement.
D'avoir les professionnels dans les rues. Là.
Et je crois tellement à ça, moi, les projets pilotes. Ah ouais, des fois, là, on a peur d'avoir peur, puis là, on fait 50 millions d'études avant d'agir. Là. Hey, ça, c'est facile. Hey, qu'est-ce que t'en penserais si on jumelle des psychiatres avec des policiers, puis on s'en va faire des interventions dans la rue, puis on check qu'est-ce que ça donne? Ça donne des bons résultats.
Comme
donc,
si on dépense pas trop d'argent dans quelque chose qui va être implanté, point.
Exactement.
Puis en même temps, on peut apporter, c'est drôle, hein, des modifications.
Ouais,
selon le vécu sur le terrain.
Être agile et flexible.
La CAQ, ce serait bon pour eux, mais malheureusement, je pense qu'on est dans la fin de l'ère de la CAQ.
Exactement, dans la fin de l'ère de la CAQ. On va lancer ça au PQ. Flexibilité et agilité, s'il vous plaît, dans vos façons de faire, ça serait très pertinent. On fait une courte pause à Boulevard 101 à Marceau le matin. Par la suite, on va revenir avec ce qu'il y a à suivre dans l'actualité. Évidemment, on va encore parler de Donald Trump parce qu'il va parler du Danemark aujourd'hui. Venezuela, c'est déjà fini. On s'attaque au Danemark.
Oui.
Quelle sera la suite ensuite? On ne le sait pas trop. On va regarder également ce qui se passe ici dans la grande région de Québec. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est Marceau le matin. Marceau le matin.